E-Radio présente Europe in a Soundbite, l'Europe du laboratoire à la classe.
E-Radio présente Europe in a Soundbite.
Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Europe in a Soundbite, nous allons nous intéresser à l'histoire des grands ports de commerce européens.
Qu'est-ce qui caractérise un port de commerce ?
Selon le dictionnaire Le Petit Robert, un port, du latin portus, qui veut dire passage, est un abri naturel ou artificiel aménagé pour recevoir les navires, pour l'embarquement et le débarquement de leur chargement. Les ports sont des interfaces, c'est-à-dire des zones de contact entre des espaces différents au cœur de la mondialisation. Ils ont un rôle décisif dans le processus de désenclavement des grandes parties du monde. En effet, les mers et océans occupent 71% de la surface terrestre et communiquent entre eux, favorisant ainsi les échanges. Avec la révolution des transports maritimes, les ports assurent aujourd'hui 80% des échanges mondiaux et 50% en valeur. Certains ports sont ainsi devenus les hubs, nœuds de communication d'une économie globalisée.
Comment les ports européens ont-ils évolué dans le temps pour devenir des espaces majeurs de la mondialisation ?
Ils deviennent au fil des ans des structures complexes de plus en plus aménagées. Au début de l'époque moderne, et fréquemment jusqu'au XIXe siècle, les ports de commerce européens sont, selon l'expression de Gérard Le Bouedec, sans ports. Ce sont des havres d'échouage ou de mouillage très peu aménagés. Cette situation perdure malgré l'essor des grands commerces transocéaniques au XVIIe et surtout XVIIIe siècle. Cependant, la croissance des trafics provoque un divorce entre les cœurs des villes et leurs ports, se traduisant par un débordement des installations portuaires vers l'aval pour les ports de fond d'estuaire et le long de l'estran pour les ports de fond de mer. Mais les travaux restent modestes, condamnant d'ailleurs certains sites comme Bruges au déclassement. Le recours à des avant-ports constitue par ailleurs une alternative particulière pour les ports de fond d'estuaire, situés parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de la mer. Brême, à 80 km à l'intérieur des terres sur la Weser, fonde Bremerhaven en 1830.
Quelles sont les conséquences du passage à l'ère industrielle sur l'évolution des structures portuaires ?
La première conséquence est une hausse spectaculaire des tonnages des navires, avec l'apparition et la généralisation des navires à vapeur pour remplacer la voile. Une telle augmentation contraint les structures portuaires à s'équiper de bassins à flot pour accueillir ces navires. Dès 1715, Liverpool est le premier port de Grande-Bretagne à en être équipé, avant Londres en 1802. Pour la majorité des ports européens, il faut attendre le milieu, voire la fin, du XIXe siècle. Jusqu'à la révolution ferroviaire du XIXe siècle, les ports sont des lieux de rupture de charge entre la navigation maritime d'une part et fluviale d'autre part, à laquelle il faut ajouter le réseau des canaux développés, surtout à partir du XVIIe siècle. Le chemin de fer fait évoluer les choses et établit un équilibre entre le transport maritime et le transport intérieur en introduisant une continuité terre-mer. Désormais, les ports d'avenir sont ceux qui disposent de vastes arrière-pays dont ils peuvent drainer les productions et qu'ils peuvent desservir. Le XXe siècle est marqué par la poursuite du processus d'extension des grands organismes portuaires. Par ailleurs, l'arrivée des industries lourdes le long des littoraux ouvre la voie aux zones industrielles ou portuaires qui nécessitent des investissements de plus en plus importants.
Existe-t-il une hiérarchie entre ces grands ports de commerce européens ?
La réduction du nombre de ports entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle s'accompagne d'un phénomène de concentration au profit de quelques organismes majeurs. Autour de pôles de commandement, souvent localisés au fond des grands estuaires, des ports sont satellisés et un partage des fonctions s'opère. Le port principal se réserve les trafics transocéaniques les plus coûteux et les plus rémunérateurs. Commerce vers les colonies de plantation des Amériques, traite des Noirs, voyage à destination de l'océan Indien. Tandis que les autres ports assurent notamment le cabotage d'approvisionnement et de redistribution à court rayon. Le processus d'industrialisation bouleverse cependant cette hiérarchie. Les ports de la façade atlantique européenne se retrouvent relativement éloignés des grands centres industriels du continent, exception faite des ports britanniques. Si Londres maintient une place prédominante jusqu'au début du XXe siècle, Rotterdam s'impose comme le premier port mondial au XXe siècle. Cependant, l'ouverture économique de la Chine à partir des années 1980 et sa transformation en usine du monde provoquent le déclassement des ports européens dans la hiérarchie mondiale. En 2013, Rotterdam n'est plus qu'au 8e rang mondial en millions de tonnes métriques, alors que l'on trouve 13 ports chinois dans les 20 premiers ports du monde.
Aujourd'hui, Europe in a Soundbite a été réalisé à partir de la notice EHNE de Bernard Michon, interprétée par Virginie Chaillot-Atrousse.
C'était Europe in a Soundbite.
That was Europe in a Soundbite. You can catch the show every Monday at 10 to 6 on EU Radio.
À retrouver tous les lundis à 17h50 sur Euradio.